Move.
Demain le monde avec Valentin et Louisa.
Move.
Et bonsoir les in, bonsoir les in. Moi c'est Valentin Després, je suis tout à fait honoré de vous retrouver pour cette deuxième émission Demain le Monde. Si l'actualité vous déprime, que vous avez l'impression que la planète brûle et que la plupart des gens détournent les yeux, si vous trouvez ça anormal que les grandes fortunes de ce monde captent toujours plus de richesses alors que la pauvreté monte en flèche, et si vous pensez malgré tout qu'essayer de lutter à votre échelle contre ces fléaux, ça a du sens, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit parce qu'ici on ne se résigne pas. Demain le Monde, c'est votre nouvelle émission consacrée à l'écologie et à la justice sociale. On va essayer de refaire le monde ensemble et pourquoi pas d'en inventer un qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et pour accomplir cette lourde tâche, que dis-je, cette tâche herculéenne, je serai accompagné de mon acolyte, ma partenaire in crime, la talentueuse journaliste Louisa Benchaban. Louisa, comment ça va aujourd'hui?
Hello Valentin, moi ça va très bien et toi?
Bah ouais, écoute, ça va super. Et aujourd'hui, en plus, pour refaire le monde avec nous, on est très heureux d'être en compagnie d'un des meilleurs vulgarisateurs historiques de YouTube, un homme au blaze aussi énigmatique que révélateur, Sumboy vrai nom. Comment ça va, Sumboy?
Ça va très bien, bah, très honoré d'être dans cette émission. Merci pour l'invite.
Ça nous fait super plaisir que tu sois là.
Alors Sumboy, on avait une première question par rapport au nom de l'émission. Qu'est-ce que ça t'évoque, Demain le Monde?
Ça m'évoque, y a la musique de PNL en plus qui tourne en même temps, donc ça m'évoque un petit peu ça. Ça m'évoque le monde de demain. Je sais pas, j'ai envie d'inverser le titre et de me dire qu'est-ce qu'on projette sur le monde qu'on veut construire dans le futur. Et je sais pas trop si c'est positif ou négatif. Moi, je suis plutôt optimiste pour l'instant en tout cas, mais avec les petites couleurs vertes que vous avez mis, ça me paraît plutôt quelque chose de l'espoir.
Bah parfait. En tout cas, on va parler de tout ça. Sumboy, pour ceux qui te connaissent pas encore, t'es présent donc sur YouTube via ton projet Histoire Crépue. C'est une chaîne qui parle d'histoire coloniale, une histoire qui, comme tu le dis souvent, est aussi complexe que la structure de tes cheveux. Et puis tu as eu aussi une deuxième activité d'artiste, on en parlera aussi en deuxième partie d'émission. Alors on pourrait se dire, pourquoi inviter un spécialiste de l'histoire coloniale à une émission qui parle notamment du combat pour l'écologie? Vous verrez que tout ça c'est très directement lié, l'exploitation de la planète en fait c'est systématiquement l'exploitation des gens. On va parler d'écologie décoloniale, de racisme environnemental, donc ça va être passionnant. Mais avant de parler de tout ça, Sumboy, j'ai lu que tu te définissais comme un militant hors sol et afropéen. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça veut dire exactement?
Bah ouais, carrément, j'aime bien chercher la merde avec des mots comme hors sol. Du coup, souvent, hors sol, c'est un mot qui est utilisé pour critiquer plutôt les militants politiques. Mmh. Et moi, je dis, je suis militant hors sol. Et ça va parler un peu justement des deux casquettes qui m'intéressent, donc la question de l'écologie et aussi la question de l'immigration ou de l'histoire coloniale. Et en fait, hors sol, c'est moi, je suis né en France. J'ai grandi dans une cité au 13e étage, donc très loin du sol et de ses racines, dans un endroit qui était très bétonné, donc j'avais pas de contact avec la terre. Et en même temps, j'étais assez loin aussi des pays d'origine de mes parents, parce que j'avais pas de contact et j'avais pas le moyen d'y aller. Donc j'étais pas un déraciné comme certains immigrés qui peuvent avoir circulé. Moi, j'étais né en France, mais j'étais un peu vivant hors sol. Et donc c'est cette idée-là que j'essaie de mettre en avant et de dire, comment est-ce qu'on s'engage politiquement quand on est hors sol? Et donc quand on parle de migration, etc., il y a toujours le mot racine qui vient, qui a un mot en fait lié à l'écologie aussi, et hors sol, les cultures hors sol, aujourd'hui on le voit aux Antilles par exemple avec la crise du chlordécone, les gens sont obligés de faire pousser des choses hors sol pour que ce soit comestible, et du coup le hors sol, moi en tout cas je suis hors sol, que je l'ai choisi ou non, et donc la question maintenant c'est comment est-ce que je me bâtis politiquement avec ce point de départ.
Parfait. Sumboy, je crois que tu avais aussi choisi ce blaze parce que tu essayes de transformer ton seum en énergie positive et ça tombe bien parce que dans Demain le Monde, on évacue nos émotions contraires en début d'émission, les hypes comme les seums. Et on va commencer tout de suite avec toi, Louisa.
Je veux be hyper.
Et Louisa, je crois que tu as été hypée par une initiative qui nous vient tout droit du Burkina Faso.
C'est ça, alors le Burkina se bat actuellement contre le plastique parce qu'il n'y a pas très longtemps, un projet de loi est passé pour lutter contre justement tous les emballages sous toutes les formes, donc les sachets plastiques à usage unique ou même qu'ils soient biodégradables ou pas du tout. Et c'est une vraie question là-bas parce qu'au Burkina Faso, il y a une vraie souffrance par rapport à ce plastique. Déjà, ce plastique, évidemment, il se retrouve dans la nature une fois qu'il est jeté par ceux qui l'utilisent. Et finalement, ça va se retrouver dans l'alimentation des animaux. Et c'est vrai que ça a causé la mort d'une grosse partie du cheptel burkinabé. Et aussi, bah, tout simplement, c'est une grosse pollution. Ça a un impact direct sur la biodiversité et sur les conditions de vie des burkinabés surtout. Et ce plastique, bah, il se transforme aussi en microplastique. Et le microplastique, ça finit dans l'eau, dans les cours d'eau. Et pour rappel, chaque minute dans le monde, il y a quand même l'équivalent d'un camion de poubelle qui est déversé dans l'océan.
De
plastique, c'est effrayant comme stat. Quand je l'ai vu, j'ai vite fait. Donc, créer des lois et surtout les faire appliquer, c'est une vraie solution pour fermer le robinet. Et il y a d'autres pays en Afrique qui l'ont déjà fait. Il y a par exemple le Kenya qui est assez dur sur la question.
Ouais, c'est important de rappeler que ce genre d'initiative, ça ne vient pas tout le temps d'Occident, ça vient d'autres pays, enfin d'autres continents aussi, notamment d'Afrique en l'occurrence.
C'est ça, bah alors. D'ailleurs, si on parle d'Afrique, le continent est extrêmement exposé au dérèglement climatique, alors qu'il est responsable que de 4% des émissions de CO2 globales. Donc voilà, c'est pas si énorme que ça quand on voit le monde, quand on dézoome. Mmh. Et si on revient sur cette question des déchets, il a même été question à un moment qu'on envoie les déchets qu'on utilise, enfin du moins qu'on peut pas recycler en Europe et en Amérique, en Afrique directement, parce qu'avant ça on les envoyait en Chine jusqu'en 2018. Le pays a dit stop, il en avait marre, il croulait sous le problème. Il y a d'autres pays d'Asie qui ont récupéré la problématique. Finalement c'était trop dur à gérer. Donc voilà, il a été question de l'envoyer en Afrique, mais il y a des États et puis des ONG aussi qui se sont alliés pour dénoncer une forme de colonisation par les déchets. Donc c'est cette lutte contre le plastique, elle est globale, hein, ça concerne absolument tous les pays du monde, mais c'est bien de voir des initiatives comme celle du Burkina.
Sumboy, est-ce que tu es hypé aussi par cette... initiative.
Ouais, carrément. Après, je sais qu'il y a quand même, je crois que c'est au Ghana, si je me trompe pas, ouais, où il y a vraiment des énormes montagnes de déchets, textiles, mais pas forcément, plastique, justement. Et ouais, ça pose une grosse question. Mais même dans des pays d'Afrique de l'Ouest, on a tout ce qu'on appelle le France au revoir, c'est-à-dire les produits de seconde main, qui peuvent parfois poser problème parce qu'ils sont détériorés ou bien ils sont de mauvaise qualité et qui peuvent nuire, même s'ils sont encore fonctionnels, et qui deviennent très vite des déchets et du coup qui vont polluer, ensuite. Les espaces. Mais donc je suis content de cette initiative burkinabé, bravo à eux.
C'est ça, on valide. Et donc toi Val, je crois que tu voulais nous parler d'un truc qui t'a bien mis le seum il n'y a pas longtemps.
Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né.
Ouais, l'équipe, moi il y a un truc qui m'a foutu le seum récemment, et encore une fois c'est surtout parce qu'on n'en parle pas. À la volée comme ça, c'est quoi le truc le plus lourd et volumineux que vous ayez déménagé dans votre vie?
Une armoire, je sais pas, un truc comme ça sûrement.
Ouais, moi c'était aussi une bibliothèque, ouais.
Une bibliothèque, bon bah en Indonésie, ils vous ont battu très très largement. Eux, ils sont carrément en train de déménager leur capitale, Jakarta. C'est vrai que quand on parle du dérèglement climatique, on parle parfois de la montée des eaux, mais on peut avoir tendance à dire, bon, on a le temps. Et ben en fait, non, à Jakarta, donc la capitale de l'Indonésie, je rappelle quand même 11 millions d'habitants intramuros et 30 millions pour la métropole. À titre de comparaison, Paris c'est 2 millions. Et ben ils ont déjà les pieds dans l'eau.
Et ils ont essayé justement de construire des digues ou des choses comme ça avant ça?
Ouais, alors ils avaient essayé de construire des murs de plusieurs mètres de haut pour protéger, mais évidemment, face à la nature, le truc est chaos de fou. Donc là, ils sont en train de construire une nouvelle capitale, Nusantara, et l'Indonésie, elle présente cette capitale comme vraiment la nouvelle ville verte avec priorité aux mobilités douces, aux piétons, aux cyclistes. Il y a des petits îlots de forêt entre les bâtiments. Donc sur le papier, c'est plutôt enthousiasmant. Mais.
Ouais, après j'imagine que tout ne va pas se passer comme prévu,
c'est ça. Les travaux déjà, ils ont pris du retard. Et puis surtout, ça pose énormément de problèmes écologiques. Faire sortir une ville de terre, ça se fait pas comme ça. Il y a d'énormes quantités de béton, d'acier, de produits chimiques qui sont nécessaires. Et puis il y a aussi beaucoup de déforestation sur l'île de Bornéo, qui est le dernier refuge des orang-outans pour construire cette ville. Donc voilà, si vous voulez creuser un peu cette actu, il y a nos confrères de chez Brut qui ont fait un très bon doc nature sur le sujet. En tout cas, moi ça me fout bien le seum parce qu'on parle quand même de déménager une capitale de 11 millions d'habitants à cause du dérèglement climatique et on n'en parle nulle part. Alors qu'en France, par exemple, on va aussi être concerné. Il y a 17 millions de personnes qui sont concernés par la montée des eaux. Il y a des grosses villes comme La Rochelle ou Narbonne qui sont aussi menacées et qui pourraient être partiellement englouties d'ici 2050. Donc c'est demain quoi. Toi, Sumboy, t'avais entendu parler de cette actu de...
Ouais, j'en ai carrément entendu parler et je me disais, c'est incroyable. Déplacer une capitale, c'est vraiment, c'est vraiment une dinguerie. Le nombre de gens, enfin, je connaissais pas la population totale, mais ouais, c'est vraiment, vraiment grave. Et moi, ça me fait penser... pour connecter avec l'histoire coloniale, à le fait que l'Indonésie, ça a été une colonie néerlandaise qui est un des pays dont on oublie qu'il a été une grande puissance coloniale en fait. Et du coup, je trouve ça, enfin, juste ça me permet de connecter avec cette histoire et de me dire, bon bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des grandes villes qui sont souvent proches des mers et ça va être dans tout ce qu'on appelle le tiers monde entre guillemets, en fait, qui sont les anciennes colonies européennes quoi. Les principales villes sont souvent en bord de mer, donc menacées par la montée des eaux, mais le fait qu'elles se trouvent en bord de mer est lié en fait à la colonisation, puisque c'était par là que les colons arrivaient et que c'était ces villes-là qui se sont développées le plus fort. On le voit à Dakar, à Abidjan, enfin dans plein de villes, voilà.
Ouais, il y a des passerelles très directes à faire entre ces deux thématiques. Ce sum étant exprimé, je pense qu'on peut commencer à parler de toi, Sumboy, et de ton combat. Mais juste avant, on va s'écouter un peu de son. Un morceau que tu nous as envoyé d'ailleurs et qui s'appelle Nopsy de Rally. Pourquoi ce son en deux mots?
Parce que je trouve que c'est important de parler de santé mentale, notamment pour les jeunes hommes qui ont grandi en banlieue, etc. Et que c'est un sujet qu'on met souvent sous le tapis et je trouve que Rally le touche très bien et il y va à fond dans la question de la santé mentale en tant que jeune garçon racisé en France.
Eh ben parfait, on s'écoute ça tout de suite sur Move.
Chez nous le psy ça n'existe pas. Chez nous tu pries pour que la tristesse passe. Ici personne n'aura pitié de toi. Parce que ce sera jamais toi le pire des cas. Je m'envolerai avec un petit peu moins de monde. Je m'envolerai avec un grand besoin de maille. On pense pas c'est pas la Cali d'Espagne. Ils ont donné les seuls fusils dans le pont. Il fallait des calmes. Mais j'ai jamais pris de calme. Il me fallait des faf en fait. Mais je veux pas d'aff en fait. Tu mérites un nom. Et si ça c'est calme. Toujours plus évidemment. Remets ton esprit dans le bas monde. Tu marmonnes trop pour un gars si peu effarant. On s'est levé dans la boue. Des gâteaux achetés au Secours Populaire dans la bouche. Des cadeaux pas si fous auprès des bougies. Dis-moi on fera quoi demain avec toi. C'est pas que pour la rime qu'on dit qu'on ira prendre un tas de risques. Comment ça va la mif? Comment ça va le bif? Le business c'est quand qu'on organise un meet-up. C'est comme si j'avais un livre ouvert sur mes yeux. Quand je guette dans les tirs, j'y lis rien de bien. J'suis revenu de Paname avec une belle nouvelle paire. Une enveloppe remplie d'une belle somme en espèces. On va à la terre entière pour la vision de mon père. Le hassoul, même si on se comprend pas, je respecte. J'ai pas une belle que j'pourrais rêver de ça. J'ai le cœur enfermé dans un sale état. J'crée mon sein, j'crée ma folie mort. J'tourne pas, j'écris une sale histoire. Et
de Rally sur Move, mais n'hésitez pas à consulter si ça va pas, il n'y a pas de honte à ça. Vrai bonhomme s'allonge sur le divan, ça bouge, hop.
Demain le monde avec Valentin et Louisa.
Move.
Et ce soir, pour refaire le monde avec nous, on est avec Sumboy, le créateur de la chaîne YouTube Histoire Crépue, donc une chaîne qui vulgarise l'histoire coloniale. Pour commencer, Sumboy, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient cet intérêt pour la question coloniale, pour l'histoire coloniale? Est-ce que c'est parti d'un questionnement intime autour de tes propres origines?
Ouais, en fait, déjà, à la base, je suis passionné d'histoire. Donc je suis le genre de personne qui va regarder des trucs sur les chevaliers, la Seconde Guerre mondiale et tout. Et en fait, on en a vu beaucoup et tous les ans, t'as plusieurs films sur la Seconde Guerre mondiale, t'as des documentaires, t'as plein de choses. Et à un moment, j'habitais en Chine pendant un an Et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais français. Moi, j'avais grandi dans une cité en région parisienne et tout. Je m'étais toujours considéré comme une sorte d'étranger, tu vois, un peu d'immigré et tout. Et là, je me suis rendu compte que j'étais français et je me suis dit, mais en fait, pourquoi mes parents, ils sont venus dans ce pays? Pourquoi est-ce que j'habite dans ce pays, la France? Et pourquoi est-ce que je me considère comme un étranger alors que je suis né ici? Et donc là, il a fallu que je comprenne un petit peu l'histoire de ma famille et l'histoire des gens qui m'entouraient. Et l'histoire de même les lieux où j'habitais. Pourquoi est-ce qu'on était dans ces cités tous réunis comme ça? Et là, j'ai creusé dans l'histoire coloniale. Et effectivement, la vie de ma famille, elle est hyper liée à l'histoire coloniale. Et pour comprendre qui je suis, j'ai absolument besoin de comprendre cette histoire. Et je pense qu'il y a des gens qui se disent « Ah, l'histoire coloniale, c'est pour, je sais pas, remuer la merde un petit peu, cracher sur la France ou je sais pas quoi. » Mais non, en fait, l'histoire coloniale, moi, c'est mon histoire. Et je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'entre nous en France. Et on est obligé de la regarder en face si on veut penser le monde de demain, justement.
Et la période coloniale, c'est vrai que c'est une période extrêmement sombre de l'histoire. Quand tu as commencé à te renseigner là-dessus, comment tu as géré pour pas te laisser atteindre forcément?
Moi, en fait, comme je suis passionné d'histoire, disons que je projette pas forcément beaucoup de morale sur l'histoire, tu vois. Je me dis, ok, c'est ce qui s'est passé. Et le plus important, c'est qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, comment ça a pu se passer, pour apprendre justement pour demain et pour se dire comment on refait pas les mêmes erreurs. Donc, il y a des choses qui sont assez violentes, mais que je prenais... en fait, comme des enseignements toujours. Et même surtout la complexité de cette histoire, parce que c'est pas une histoire qui est, on va dire, bichromique, tu vois. Genre, c'est pas une histoire très, voilà, manichéenne. En fait, c'est une histoire très complexe, parce que pour que la colonisation soit possible, il faut qu'il y ait des gens sur place qui coopèrent. Mais les gens, ils coopèrent pourquoi? Parce qu'il y a un degré de violence qui est gigantesque et qu'ils ont peur pour leur vie. Enfin, il y a plein de choses qui nous aident à comprendre aussi ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, moi, quand je regarde l'histoire coloniale, après, c'est peut-être mon tempérament aussi, Je suis pas du tout détaché, mais j'essaye d'en apprendre le maximum. Et je me dis, il y a des gens qui sont morts, par exemple, dans des massacres. Enfin, j'étudie beaucoup les massacres coloniaux, des choses comme ça. La meilleure manière de leur rendre hommage, c'est de vraiment comprendre comment ça s'est passé et de raconter leur histoire.
Mais ça, je trouve que c'est très fort. Moi, quand je regarde tes vidéos, je trouve que tu arrives à rester, je sais pas si froid c'est le mot, mais en tout cas très factuel. Et du coup, ça donne encore plus de puissance à ton travail. Aujourd'hui, sur Histoire Crépue, il y a quand même 150 000 personnes qui te suivent sur YouTube. Sur Instagram, c'est presque 180 000.
Ouais.
Est-ce que tu t'attendais à ce que ça prenne autant d'ampleur? Est-ce que tu pensais que les gens allaient s'intéresser comme ça à l'histoire coloniale?
Alors, j'avoue que je pensais pas que ça irait aussi vite. Aujourd'hui, on a en tout 500 000 abonnés sur les différentes plateformes. On est aussi sur TikTok, Twitch et X. Et en fait,
Twitch beaucoup aussi, c'est vrai que je l'ai pas précisé.
Ouais. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'avais lancé une chaîne YouTube en me disant, en un an, si j'ai 10 000 abonnés, un peu des fans d'histoire et tout, ce sera super. Et c'est tombé pendant le confinement. Il y a eu George Floyd qui a été tué par la police américaine. Et là, il y a eu, j'ai fait des vidéos qui ont vraiment résonné avec l'actualité. Et donc, c'est plutôt sur Instagram que ça a pris 30 000 abonnés en quelques jours sur Instagram, alors que je pensais pas du tout investir cette plateforme. Et là, comme ça, la chaîne a eu un peu de crédit, en fait, et est montée au fur et à mesure des années. Donc, ça fait 4 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, on a 500 000 abonnés. Et je me dis, en fait, quand moi j'ai lancé la chaîne, j'avais besoin de comprendre ma propre histoire. Et je me disais que ça allait résonner avec d'autres personnes. Parce qu'on est trop nombreux et nombreuses. Et que ce soit des personnes racisées ou des personnes blanches, beaucoup de gens ont leurs parents qui ont été en Algérie, ou qu'il y a des traumas très forts, pas qu'en Algérie, à Madagascar, aux Antilles, peu importe. Et donc je me disais, forcément, ça va résonner auprès d'un très large public. Et ça va ouvrir des discussions intergénérationnelles et tout. Et donc je comprends que ça résonne. Et j'en suis content, mais je pensais pas que ça irait aussi vite et aussi fort.
En tout cas, aujourd'hui, ça brasse bien plus loin que juste les fans d'histoire.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup de faire ce que tu fais, parce que l'histoire coloniale, tu le disais, c'est pas forcément ce qu'on étudie le plus à l'école, de loin pas. Et pourtant, cette histoire, elle explique pas mal de problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui. Et c'est important de s'armer intellectuellement pour les comprendre. Surtout quand on a des ministres qui veulent nous faire croire, je cite, que la colonisation, ce sont aussi des heures qui ont été belles. Et justement, en parlant de ministres, comme aujourd'hui, ils préfèrent parler d'immigration et de baisser les dépenses du service public plutôt que de résoudre la crise en Martinique ou amorcer une vraie transition écologique, on s'est dit qu'on allait te proposer, Sumboy, de constituer ton propre gouvernement. Coup de théâtre ! Michel Barnier vient d'être censuré et Emmanuel Macron doit nommer un nouveau Premier ministre. Contre toute attente, c'est toi, Sumboy, créateur de la chaîne YouTube Histoire Crépue et militant décolonial, qui est nommé à Matignon. On veut savoir qui tu mets dans ton gouvernement et pourquoi, sauf qu'on te rajoute une petite difficulté, sinon c'est trop simple. T'as pas le droit de citer de personnalité strictement politique.
Ok.
Alors pour commencer, qui tu mets au ministère dit des Outre-mer ?
Alors je mettrais Samora, qui a un podcast qui s'appelle Le Moicast et qui fait un super travail de réflexion sur les Outre-mer. Mm-hmm. Il a fait une série de podcasts qui s'appelle Cascode, dans lequel il a interviewé plusieurs militants indépendantistes antillais. Et vraiment, ouais, il fait des Twitch tous les jours et il se donne vraiment, vraiment comme un ouf, quoi.
Okay.
Donc moi, je mettrais Samora, Le Moicast.
Outre-mer qui, c'est un terme qui est aussi hérité de l'époque coloniale.
Ouais, carrément. En fait, ce qui est intéressant avec le mot outre-mer, c'est que à l'époque coloniale, et là, en fait, le mot outre-mer, il nous fait comprendre que la colonisation n'est pas vraiment finie, en fait, dans le contexte français. Parce qu'à l'époque coloniale, il y avait un ministère qu'on appelle le ministère des colonies, qui a changé plusieurs fois de nom. Parfois, c'était ministère des colonies et de la marine, parfois, c'était que ministère des colonies, et souvent, c'était ministère des Outre-mer. C'est-à-dire que c'était encore la colonisation, il y avait des colonies, et le truc s'appelait ministère des Outre-mer. Parce que Outre-mer, en France, ça veut dire colonie. C'est la même chose. Et simplement, au moment où il y a eu la majorité des indépendances, on va dire la décolonisation, entre guillemets, de la majorité des colonies françaises, eh ben, on a gardé ce nom Outre-mer, et certaines colonies sont restées et ont été départementalisées. Et donc, ça va être le cas de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, etc. Mais il faut bien comprendre que ça reste quand même des colonies. Elles font partie des plus vieilles colonies françaises. Et dans tout ce qui a lien aux colonies, ces territoires sont des colonies françaises. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on essaye de déconnecter le mot outre-mer de colonie. Mais en fait, c'est un synonyme. Et ça nous, en fait, même le fait de dire outre-mer aujourd'hui, ça nous rappelle qu'il y a aussi une métropole. Et donc ce rapport colonial n'est pas du tout mort. Et c'est pour ça qu'il y a encore aujourd'hui des indépendantistes qui se battent, et notamment en Kanaky.
Okay. Et qui tu mettrais maintenant à la transition écologique ?
À la transition écologique, je mettrais Souba Brunel, qui est militante aussi au sein d'un collectif qui s'appelle Les Impactrices, et qui parle vraiment de cette question de l'écologie, comment est-ce qu'on pense le monde de demain, justement, sans reproduire toutes les injustices sociales et de consommation, de production, qui nous emmène dans la catastrophe écologique dans laquelle on est en train de vivre. Et elle fait vraiment ce lien entre les modes de production actuels et la catastrophe écologique. Voilà. Souba Brunel, Les Impactrices.
Et puis, t'as un dernier ministère. Qui tu mettrais à l'économie ?
À l'économie, je mettrais Mariemta Moussanang, qui a fait un podcast qui s'appelle Afrotopique, et dont toute l'idée, c'est de repenser la modernité depuis les territoires qui ont le mieux résisté à la modernité. Et ça va être notamment, elle travaille sur l'Afrique de l'Ouest notamment, mais ça peut être en fait tout ce qu'on appelle le tiers-monde, qu'elle voit comme des territoires qui ont résisté à ce capitalisme. En fait, c'est pas des territoires qui ne se sont pas développés, mais plutôt qui ont des stratégies de résistance dont on peut s'inspirer pour penser le monde de demain, justement.
Un vrai gouvernement de podcasteurs, mais c'est cool, on a des bonnes recos.
Après, j'ai encore plein de noms, et je pense à Malcolm Ferdinand, plein d'autres personnes, mais voilà.
On va parler de lui aussi dans un instant.
Et ça serait quoi, justement, les trois chantiers prioritaires de ce tout nouveau gouvernement ?
Moi, je dirais bien sûr l'histoire coloniale. Enseigner l'histoire coloniale, pour moi, c'est vital pour, au lieu de faire des trucs sur l'immigration et tout. Déjà, une bonne compréhension de l'histoire coloniale, ça nous permettrait de repenser totalement différemment la manière dont on vit en société aujourd'hui en France. Je dirais la santé mentale, mais ça a été justement dit, le ministère Barnier a essayé de mettre ça en grande cause, mais je ferais mieux que lui. La santé mentale qui est très importante, je pense, à mettre en avant. Et je dirais, j'ai envie de dire la lutte contre le chlordécone, en quelque chose qui soit fait concrètement sur le chlordécone.
Eh ben, en attendant ta nomination au poste de Premier ministre, Sumboy, je te propose d'écouter un peu de son. C'est toujours toi qui as la main sur la playlist et tu nous régales aujourd'hui avec Monde de Luigi. Pareil, en deux mots, pourquoi ce titre ?
Je sais pas exactement, mais j'aime beaucoup la voix et le son. Et je me dis, il y a un truc où je sais pas comment dire. Non, il y a un truc que j'aime bien dans ce qu'il a dit dans ce son. Et c'est le fait de s'auto-infliger une cause qui est peut-être plus grande que nous.
Parfait, on écoute ça tout de suite sur Move.
Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde. J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber, abandonné comme une bête sauvage blessée. Je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. Oh, j'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Je le fais avec mon cœur, mes couilles, je ne prends pas de cours de chant. Je ne prends pas de cours de chant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps. Et je bénis chaque jour qui m'a vu échouer. Chacun d'entre eux m'a rapproché de ma vérité. Elle m'a sauvé de mon sort, elle a guéri chaque partie de mon corps, chaque partie de mon corps. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes.
On avait prévu de passer un moment riche de connaissances, mais en plus, monsieur a bon goût en musique. Merci Sumboy, c'était Monde de Luigi sur Move.
Demain le monde, avec Valentin et Louisa.
Et vous écoutez toujours Demain le Monde, l'émission dans laquelle on refait le monde et où on essaye humblement d'en inventer un qui ne surexploite ni les gens ni la planète. Je suis toujours avec Mago sur Louisa Benchaban. Hey. Et aujourd'hui, pour cette deuxième émission spéciale, on est avec Sumboy, le cerveau derrière la chaîne YouTube Histoire Crépue. Alors, Sumboy, ici dans Demain le Monde, on essaie d'inventer un monde qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et en fait, un des points de rencontre entre justement l'écologie et l'histoire coloniale, c'est la banane. Enfin, c'est un très bon exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ?
Alors, la banane... Alors, je suis pas le plus grand spécialiste de la banane, mais je pourrais en parler un petit peu. J'ai un autre produit sur lequel je suis encore plus calé et okay. qui m'intéressera de parler après. Mais la banane, en fait, c'est donc un fruit qui pousse notamment ce qu'on consomme en France. Il y en a beaucoup qui viennent des Antilles, en fait, françaises, donc qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, une colonie encore. Et pour exploiter, pour produire de la banane, en fait, on a utilisé pendant longtemps des pesticides, alors qu'on savait, donc c'est un pesticide qui s'appelle le chlordécone, alors qu'on savait à quel point il était toxique pour les terres. Et donc, on l'a utilisé sur des îles, donc Martinique, Guadeloupe, et ça a pollué pour des années et des années, donc des centaines d'années, les sols. Et tout ça, pourquoi ? En fait, pour pouvoir produire ces bananes qu'on importe ici en France, pour la métropole, voilà, qui ne sont même pas forcément consommées beaucoup sur place. Et donc, il y a une façon de les faire pousser. Donc, elles mûrissent aussi un petit peu dans le trajet. Enfin, voilà, il y a tout un fonctionnement de la banane qui est assez particulier. Et donc, ouais, la banane, c'est peut-être le fruit qui nous rappelle à quel point le mode de fonctionnement colonial est toujours présent et actif en France. Quoi. Parce qu'en plus, c'est des grandes familles qui sont des descendants et descendantes d'esclavagistes qui possèdent les grandes plantations de bananes. Et les bénéfices de tout ce scandale reviennent principalement à ces familles. Et en attendant, bah, les familles des anciens esclavagisés qui vivent encore aux Antilles n'ont pas d'autre choix que d'acheter des produits qui sont importés, notamment de France, alors qu'ils pourraient faire pousser des choses sur le sol de Martinique s'ils n'étaient pas pollués.
Et c'est quoi ce deuxième produit dont tu parlais sur
lequel c'est le chocolat.
Ah, le chocolat.
Et ouais, parce que le chocolat, en fait, pour mes origines, je viens pas du tout des Antilles et ma mère est métisse de Côte d'Ivoire et France. Et donc, la Côte d'Ivoire, c'est le premier exportateur de cacao. Et l'histoire du chocolat, c'est une histoire coloniale qui est passionnante et je trouve que ça nous raconte encore à 100% comment fonctionne l'exploitation coloniale depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Il y a toute une période qui se passe. Bon, voilà, ça met beaucoup de temps à se démocratiser en Europe. Mais une fois que c'est démocratisé, pour avoir du cacao, en fait, les colons européens vont imposer des énormes plantations de cacaoyers, notamment en Côte d'Ivoire. Et donc, le cacaoyer, ça fait que on a des énormes forêts de cacaoyers en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que c'est la déforestation par la plantation. C'est très bizarre. Donc, en gros, on a beaucoup, beaucoup d'arbres, mais ça tue tout ce qui pousserait en bas. Et les arbres sont rentables pendant environ 30 ans. Et au bout de 30 ans, en fait, ils ne produisent plus assez de cacao, donc c'est plus exploitable. Et donc, on continue à déforester d'autres arbres et à replanter du cacao. Donc, on a des espèces d'énormes forêts de mono-cacao qui ne servent plus à rien. Et 80% de la surface forestière de Côte d'Ivoire a été niquée à cause de ça. Mmh. Donc, ça fait qu'on a des immenses forêts, mais qui ne sont pas des vraies forêts vivantes. Ouais. Tu vois, et c'est un truc très, très bizarre. Et ça continue aujourd'hui à nourrir, en fait, ce que là, on a comme tradition, le pain au chocolat. On se dit, c'est totalement français. Bah, en fait, ouais, non, c'est l'histoire coloniale. Tu vois.
Et puis, c'est vrai que c'est des produits tellement banal qu'on ne se rend même plus compte. En fait.
C'est ça, c'est vraiment notre plaisir et c'est le plaisir lié à la colonisation, le sucre, le café, le tabac, le coton, le cacao.
Pas que des bonnes choses en plus.
C'est ça. Et justement, sur ta chaîne, tu parles de plein de sujets d'actualité sous l'angle de l'histoire coloniale et tu as déjà parlé d'écologie décoloniale. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept-là?
Ouais, comme je viens un peu de le raconter avec l'histoire du cacao, l'écologie décoloniale, en fait, c'est le fait de comprendre que la destruction du vivant à laquelle on assiste aujourd'hui, elle est en fait liée à des modes de production capitalistes, mais aussi surtout colonialistes. C'est-à-dire que, par exemple, l'exploitation massive de minerais ou les grandes monocultures de maïs dans les Amériques, ou de cacao en Côte d'Ivoire, de bananes aux Antilles, tout ça, c'est des modes de production colonialistes qui ont pour objectif d'apporter des ressources, des matières premières, des produits dans le monde occidental. Et c'est les routes d'exploitation sont nées dans le contexte colonial et donc l'ensemble du monde a été affecté par cette exploitation coloniale. Et aujourd'hui, quand on pense à la catastrophe à laquelle on est en train de vivre, à laquelle on est en train d'assister, il faut comprendre quelles sont les origines de ça. Et souvent, les écolos, notamment en Occident, disent l'humanité a détruit, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est pas n'importe quel mode d'humanité qui a détruit la planète et pas de n'importe quelle façon. Et ça, c'est important à comprendre. Et l'écologie décoloniale, elle permet de recontextualiser comment le monde a été vraiment détruit. Et du coup, pouvoir savoir quelles sont les routes, les méthodes qu'il faut attaquer pour ralentir la destruction de l'environnement.
Ouais, c'est ça, je trouve ça intéressant parce que tu as ce côté, évidemment, comprendre d'où on vient et pourquoi on en est là. Et puis c'est vrai que, tu vois, dans l'imaginaire un peu collectif, on peut se dire, voilà, c'est des blancs occidentaux qui ont inventé l'écologie, ils se baladaient dans la nature, ils se sont dit, tiens, il faudrait préserver cette belle nature. Alors que finalement, souvent, les pionniers de la protection de l'environnement, c'est surtout les peuples qui se sont soulevés contre l'oppression, contre les puissances étrangères qui voulaient exploiter les terres. Est-ce que, justement, on n'a pas plus à aller chercher chez les descendants de ces peuples qui ont été exploités pour avoir des solutions que potentiellement dans la Silicon Valley ou chez les technosolutionnistes qui nous disent que la technologie va sauver le monde. Ouais.
Non, mais c'est sûr, je pense. Et c'est pour ça, par exemple, je parlais de Mariemta Moussanang au ministère de l'écologie. Elle, le travail qu'elle fait dans le podcast Afrotopique, c'est vraiment ça. C'est aller réfléchir et aller trouver les technologies, entre guillemets, mais locales, qui ont été inventées par les populations pour survivre malgré la destruction de leur environnement, etc. Et donc, oui, je pense qu'il faut vraiment essayer de chercher quelles sont les formes qui ont été développées de résistance à la plus petite échelle partout dans le monde. Mmh. Et l'autre truc que tu disais par rapport à la protection de l'environnement qui est portée principalement par des personnes blanches aujourd'hui dans le monde, c'est les plus visibles en tout cas sur cette question, c'est aussi dû parce qu'il y a ce qu'on appelle le colonialisme vert, il y a plein de choses qui sont liées à ça, mais c'est aussi dû à la facilité de circulation et au privilège des personnes blanches dans un monde post-colonial qui peuvent se retrouver en Afrique pour aller dire on va protéger telle partie du Kenya parce que t'as un visa de ouf qui est dû au fait que ton pays c'était l'Angleterre, ancienne puissance coloniale, et parce que t'as la monnaie, enfin parce que, en fait voilà, tout ça c'est aussi lié à la protection du climat. Souvent, en tout cas ceux qui capitalisent sur la protection du climat sont souvent aussi des héritiers de privilèges coloniaux.
Mmh. C'est hyper important de le dire. Sunboy, tu restes avec nous, on a encore plein de trucs à te dire, plein de questions à te poser. Mais avant, à notre tour de t'ambiancer un peu, Louisa, est-ce que tu peux nous teaser un peu le son qu'on va s'écouter ?
Ouais, bah on va écouter MC Abdul, c'est un jeune rappeur palestinien qui raconte ce que c'est de grandir sous les bombes.
On s'écoute ça tout de suite, restez bien branchés sur Move.
Feels like I'm speaking to death fears, are you listening? It feels like I'm out of tears, I run off adrenaline. It's been so many years, we had suffered from pillaging. They treat us like animals, like we are not citizens. I'm just hoping time heals all with a swing of the pendulum. At minimum, I got war stories, I got more stories. Seen a bomb hit a building that was four stories. What do you ask from us? We dying for massacres. Hit with bullets, cause when they pull it, we can't run fast enough. We souls in a sniper scope, when they holding the rifles though. Don't know when this life will go, I just balance the highs and lows. Generational curses, need a million hearses. All this killing is hurting, I gotta finish my purpose. I may be young, but I got weight on my shoulders. I may be young, but I'ma stand like a soldier. I take my brothers and sisters and hold them. I may be young, but all this pain makes me older. Even though I may be young, I may be young, I may be young, I may be young. Look, when it comes to this life, I had to grow up fast. And through the strife, I had to learn how to laugh. But it's turning me mad, cause they wanna take a murderous path. I'm focused on my future, so don't be concerned with my past. Look, I close my eyelids and hear the sirens and see the violence from all the tyrants. I think we need some silence. All this trauma has made me wise. I realize through this drama I'm still alive. Take my advice, hug your mama just like she's mine. I can't cry, I got God right by my side. So I pray they guns jam and we grow old. I'm a young man but with an old soul. I may be young but I got weight on my shoulders. I may be young but I'ma stand like a soldier. I take my brothers and sisters and hold them. I may be young but all this pain makes me older. Even though I may be young, I may be young, I may be young, I may be young.
I may be young, MC Abdul sur Move, 16 ans, et déjà un discours et des valeurs bien solides. Si certains veulent s'inspirer, qu'ils n'hésitent pas.
Demain le monde, avec Valentin et Louisa.
Move!
Et vous écoutez toujours Demain le Monde, vous avez bien raison. Toute la semaine, on vous a concocté une programmation aux petits oignons. Et ce soir, on est honoré de pouvoir échanger comme ça longuement avec toi, Sunboy. Mais on voulait aussi donner la parole à d'autres personnalités, d'autres figures du combat, notamment pour l'écologie, pour préserver l'habitabilité de notre planète, tout simplement. On voulait aussi tendre le micro à des gens qui sont un peu moins sous le feu des projecteurs, mais qui changent les choses à leur niveau, dans leur secteur. C'est l'heure d'écouter notre bifurqueur du jour.
Vous n'êtes pas les seuls à trouver qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
Vous pouvez bifurquer maintenant.
Ne nous appelle-t-on pas les bifurqueurs ?
Et aujourd'hui, Louisa, tu es allée à la rencontre de Camille, ancien tatoueur devenu floriculteur.
C'est ça. Alors Camille a 37 ans. Il s'est installé il n'y a pas très longtemps dans l'Aude, pas loin de Toulouse, avec sa famille pour faire de l'agriculture biologique. Avant ça, il a eu une vie pro assez riche. Il s'est formé d'abord à l'art. Il a vécu en Australie, où il a découvert l'agriculture, mais aussi le tatouage. Et finalement, il décide de devenir tatoueur. Sa passion jusqu'à ce que le désir d'être ultra utile pour la société le submerge.
J'avais besoin d'avoir l'impression de faire partie des solutions, faire ma part des choses. C'est ce qu'on dit aussi souvent avec ma compagne, c'est qu'on fait notre part. C'est la théorie du colibri, quoi. Si tout le monde fait sa petite part à sa petite échelle, on fait avancer les choses, quoi. Et donc il faut incarner ce changement qu'on voudrait voir dans la société. Mais il faut l'incarner pour pouvoir le régir en exemple un peu, quoi.
Alors sa prise de conscience, elle commence chez lui, où il faisait très attention à polluer le moins possible, alors qu'au travail c'était différent, en tant que tatoueur c'était trop compliqué de le faire.
Il y avait une espèce de dissonance entre le à la maison, on faisait nos courses en vrac, on achetait plus de sopalin, on s'essuyait avec des torchons et on essayait de tendre vers du zéro déchet. Et au boulot, ben, j'étais obligé d'être sur les réseaux sociaux quasi en permanence pour faire ma com. Et en plus de ça, je faisais énormément de déchets, quoi.
Alors, avec sa compagne, ils enchaînaient les manifs et à chaque retour, bah, il voyait que pas grand-chose ne changeait. Pour lui, la solution, ça a été de changer de vie carrément. Il plaque tout avec sa compagne Cécile et leurs enfants pour aller dans l'Aude et prendre un nouveau départ plus proche de la Terre. Et ça a totalement changé sa vie.
J'ai l'impression d'avoir trouvé ce sens. J'ai rempli, en tout cas, cette case de mon cerveau qui m'a appelé à trouver du sens. Cette case de vide qu'on avait, on l'a comblé. J'ai l'impression d'avoir trouvé du sens et j'ai l'impression que ce qu'on fait, on est dans le bien, on est dans le vrai, on est dans quelque chose qui amène et du bonheur et de l'emploi local et de la régénération des sols. Enfin oui, j'ai l'impression qu'on a trouvé notre voie.
Alors c'était pas sans sacrifice, on le sait, l'agriculture c'est un secteur en crise et pourtant il est bien plus heureux qu'avant.
Avant, je gagnais beaucoup plus, mais je dépensais beaucoup plus aussi, parce que j'avais pas du tout le même rythme de vie, mais parce que c'était aussi peut-être une recherche incessante de satisfaction. Enfin, moi, c'était combler des manques. On consommait, j'achetais des paires de baskets et des casquettes pour juste remplir le vide qu'il y avait dans ma vie, parce que il y avait pas de sens ailleurs, quoi. Aujourd'hui, je vis très bien avec un quart de ce que je gagnais avant, même pas.
Alors si certains veulent se lancer aussi, tout quitter pour être plus proche de la Terre, il y a plein d'aides qui existent et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Camille de traverser les épreuves du début.
Il faut s'accrocher. Nous, pendant longtemps, voilà, on voyait ça comme un grand escalier sans fin, avec des marches immenses à gravir. Et heureusement qu'il y a justement ces associations et ces aides à droite et à gauche pour pouvoir s'accrocher et toujours continuer à monter. Mais c'est quand même un parcours laborieux, quoi. Aujourd'hui, s'installer agriculteur quand on n'est pas issu du milieu agricole, ça reste laborieux, ça reste un parcours un peu complexe, mais qui est vraiment pas insurmontable.
Alors vous pouvez suivre Camille et sa compagne sur leur compte Insta Ferme l'odeur de la pluie. Si vous êtes près de Toulouse, sachez que vous pouvez aussi les croiser sur certains marchés.
Trop bien. Sumboy, ça t'inspire ce parcours de bifurqueur?
Ouais, c'est pas mal. Ben moi-même, j'essaie de me rapprocher, enfin de sortir en tout cas des grandes agglomérations. Mm-hmm. Là, actuellement, je suis plutôt sur Clermont-Ferrand, par exemple. Bon, après, ça reste une grande ville quand même. Mm-hmm. Mais voilà, ça me permet d'être un peu plus proche de la Terre parce que je peux y être plus rapidement. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai pas eu la chance d'avoir en ayant grandi en région parisienne dans des conditions précaires. Donc ouais, ça m'inspire.
Et ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Parfait. En tout cas, Sumboy, je te propose de continuer de parler de reconversion, d'initiative, de se projeter surtout. Vous écoutez toujours Demain le Monde, vous êtes au bon endroit.
Demain le Monde, avec Valentin et Louisa.
Move.
Alors, si demain le monde se transformait, Sumboy, justement, puisqu'on parlait de bifurqueur, si nos jobs devenaient beaucoup moins utiles, s'ils disparaissaient, toi, si tu devais te reconvertir, vers quoi t'irais spontanément? Est-ce que ça serait plutôt l'agriculture, l'artisanat ou autre chose?
Waouh, c'est une question difficile. Moi, la particularité, c'est que mon job, il est déjà très flexible. En fait, j'apprends des choses et je les transmets aux autres. Donc, je crois que je resterai dans ça. En fait, c'est pas un job qui peut souffrir vraiment d'une crise parce qu'on a toujours besoin de transmission. Et peu importe l'état du monde, on a besoin de personnes qui peuvent raconter ce qui s'est passé précédemment et essayer de transmettre des connaissances aux autres. Donc, je pense que je resterai dans ça, en vrai.
Rien de manuel, du coup?
Non. Je t'avoue que je suis pas un super grand manuel.
Et si, ouais, mais imaginons, tout brûle, il n'y a plus d'ordi, il n'y a plus de serveur. T'es vraiment obligé de faire autre chose.
Bah ouais, mais d'où l'importance de la mémoire. Le plus important, c'est de transmettre le plus vite
possible.
Compteur,
du coup.
Ouais, voilà. Raconter des choses, je me baladerai pour raconter des choses aux gens, tu vois. Parce qu'il manque tout, le pire, ce serait que ma mémoire parte aussi. Et là, on n'aura aucune trace de quoi que ce soit, tu vois.
Et là, il faudra faire quelque chose d'autre. Voilà. Sumboy, en faisant mes recherches, je suis retombé sur un vieil article de blog que tu avais écrit pour Extinction Rébellion, qui est un mouvement de désobéissance civile écologiste. Et dedans, tu disais, j'ai souvent du mal à m'intégrer dans les milieux écolos très blancs. Et c'est vrai que ça manque parfois de diversité à cet endroit. Comment, à ton avis, on fait pour ramener plus de diversité dans l'écologie et donc plus de justice aussi dans les solutions?
Justement, je pense que c'était une des grosses erreurs que j'ai faites, moi, en allant dans les mouvements écolos en France. C'était de penser qu'on pourrait ramener gagner plus de diversité. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est pas du tout le cas et que ça va pas fonctionner comme ça. Et parce que il y a des manières, en fait, il y a des intérêts qui sont pas exactement situés aux mêmes endroits. Et c'est comme, pour tout ce qui est politique. La raison pour laquelle je pense qu'il y a principalement des personnes blanches dans les mouvements écolos, c'est parce que les choses qui les motivent le plus, ces personnes, c'est pas plutôt être la peur de perdre un certain niveau de confort en réalité et de voir des espaces auxquels ils sont attachés être détruits ou transformés. Par exemple, tu penses au village de ta grand-mère, etc. et t'as peur que, y ait plus autant de verdure, etc. Ça c'est un vrai affect qui te motive politiquement. Et pour des personnes qui ont grandi, qui sont des personnes racisées, qui viennent d'une immigration, qui ont grandi dans un espace bétonné, les affects ne sont pas exactement les mêmes et du coup c'est pas la même chose qui te motive à t'engager. Et je pense que il y a des différences du coup de raisons de s'engager qui font qu'il n'y a pas encore de synchronisation des mouvements. Mais ça ne veut pas dire que les personnes racisées ne s'intéressent pas à l'écologie. Mmh. Mais ça ne sert à rien d'essayer de les ramener dans des espaces qui ne sont pas ceux qui les
activent. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et par contre, moi, donc, la stratégie que j'ai, c'est plutôt de développer un discours anticolonial, décolonial, de parler de colonialisme, parler de l'histoire de la destruction du monde via ce biais-là. Et là, je pense qu'on peut être... En tout cas, moi, je m'approprie beaucoup plus les questions écologiques via ce biais-là. Et une fois qu'il y aura des écologies décoloniales ou des mouvements écologistes décoloniales suffisamment solides, ils pourront facilement discuter avec d'autres mouvements, tu vois. Et c'est plutôt du dialogue de mouvements, plutôt que d'essayer d'absorber des personnes racisées dans des mouvements blancs.
Encore une fois, tu prouves que ça va ensemble, en tout cas.
C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que dans l'émission de lundi avec MC Danse pour le Climat, on parlait de militantes britanniques de Just Stop Oil qui ont été condamnées à de la prison ferme pour avoir jeté de la soupe sur un Van Gogh. Et depuis, y a pas mal de mouvements de désobéissance civile qui ont été découragés par le traitement médiatique qui est fait de leur combat et surtout la criminalisation croissante de ceux qui font. Toi qui as fait partie quand même d'Extinction Rebellion un moment, comment tu vois le futur du combat pour la protection du climat notamment, t'en parlais un petit peu aussi juste avant.
En vrai, je trouve que par exemple ce que font les soulèvements de la Terre, c'est hyper intéressant et hyper bien, et il y a beaucoup de... Enfin, je pense que les mouvements sociaux en général, les mouvements de lutte, ils évoluent de toute façon avec le temps et ils s'adaptent à leur époque et à la pertinence. En fait, ce qu'on fait peut être pertinent à un moment donné et ensuite le mode d'action, la tactique d'action peut ne plus être pertinente. Et là, par exemple, des mouvements comme Extinction Rebellion ou le mouvement où les jeunes femmes ont été condamnées, la particularité, c'est que c'est des personnes blanches, souvent, qui font des actions de désobéissance civile en s'appuyant sur des pensées de la non-violence, qui sont les pensées notamment de Martin Luther King ou de Gandhi, qui sont en fait des pensées anti-racistes qui se passent dans un contexte colonial très particulier. Et donc, en fait, il y a une inspiration de ces mouvements, mais la réalité n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que les personnes blanches, quand elles font cette action non-violente, il y a très peu de chances, en général, qu'elles soient condamnées, que ça aille si loin. Alors que si c'était des personnes racisées, la violence aurait été beaucoup plus directe. Et là, on arrive à un moment où, effectivement, le pouvoir répressif s'est abattu sur des personnes blanches, comme il se serait abattu sur des personnes racisées. Et du coup, la tactique va devoir évoluer. Il y avait un privilège qui était jusque-là conservé. Là, c'est plus le cas et ça va bouger. Mais juste pour finir sur ce truc de non-violence, je trouve ça important pour les mouvements blancs aujourd'hui écolos, de bien comprendre que quand on s'inspire de Gandhi, parce que moi j'ai trop entendu dans les mouvements écolos, quand on s'inspire de Gandhi, il faut faire l'effort de comprendre ce que c'est que l'histoire coloniale de l'Inde. Gandhi, il fait pas ça parce qu'il se dit la violence c'est pas bien, c'est parce que le pouvoir répressif indien est tellement brutal, il y a eu des massacres mais gigantesques en Inde, que la seule solution qu'il trouve à ce moment-là, c'est de passer par la non-violence, mais dans un cadre de lutte anticoloniale. Et Martin Luther King, c'est pareil, quand il fait de la non-violence, c'est dans un cadre où la ségrégation, la suprématie blanche est tellement brutale et tellement violente qu'il en vient à utiliser cette technique-là, sans condamner pour autant les méthodes violentes, enfin violentes entre guillemets, en tout cas les méthodes d'autodéfense qui sont développées par d'autres mouvements. Et donc, quand on prend ce genre de choses, il faut faire très attention au contexte politique, et souvent ça me surprend que des militants blancs revendiquent des figures comme Gandhi ou comme Martin Luther King, et qu'ensuite quand on leur dit écologie décoloniale, ils sont en mode « mais pourquoi tu fais le lien entre colonisation et écologie ?» Mais gros
Éduquez-vous. Ouais. Cette série d'émissions spéciales Demain le Monde, elle a lieu une semaine avant la COP 28 de Bakou en Azerbaïdjan. Jusqu'ici, on voit que les COP, elles n'ont pas permis d'engendrer d'énormes succès. Toi, est-ce que tu en attends quelque chose de cette COP? Est-ce qu'il y a un domaine en particulier sur lequel tu dis j'aimerais que ça avance, quoi?
J'avoue, non. J'ai pas de beaucoup ça, d'espoir.
Et voilà.
J'avoue, j'ai pas beaucoup d'espoir.
On espère en tout cas qu'il y aura des avancées, parce qu'on parle souvent du futur de 2050 et tout, mais 2050, c'est dans moins de 26 ans, les gars, c'est demain, alors au boulot. Nous, on va suivre ça de très près, mais en attendant, on va s'écouter un peu de musique. Vous l'entendez derrière moi, un immense classique du rap français, Lettre à la République de Kery James, tout de suite sur Move.
Colonisateur, tortionnaire d'Algériens, ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité, les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Kery James, le cracheur de vérité, le prononceur de termes, l'artisan de la raison. C'était Lettre à la République sur Move.
Demain le monde, avec Valentin et Louisa.
Et vous êtes toujours branchés avec nous dans Demain le monde pour cette troisième émission spéciale. On est avec un invité de Marc Sumboy, le créateur et visage. C'est la deuxième émission, effectivement. On est avec Sumboy, le créateur et visage de la chaîne YouTube Histoire Crépue. Sumboy, tu as aussi une activité d'artiste qu'on connaît un peu moins, mais dont on va parler dans quelques instants. Et c'est intéressant parce qu'avec Louisa, dans Demain le Monde, on est persuadé que la musique, le cinéma, la littérature, mais la culture au sens large, elle peut et elle doit nous aider à imaginer le monde qu'on souhaite advenir. D'ailleurs, ici, on ne binge-watch pas, on green-watch. Louisa, qu'est-ce que tu as green-watché ces derniers temps?
Alors, pour moi, là, en ce moment, c'est l'automne, donc c'est le moment de revoir des vieux classiques. Et là, je veux qu'on parle d'un immense classique des studios Ghibli, c'est Princesse Mononoke. Donc si vous êtes des habitués des films de Miyazaki, vous savez à quel point il met au centre de son œuvre la nature et surtout le rapport de l'homme à la nature. Alors petit rappel de l'histoire, dans le film, t'as le prince d'un village du Japon médiéval qui est infecté par un démon maléfique qui a pris possession d'un sanglier. Et pour guérir, il se met en quête de l'esprit de la forêt qui pourrait l'en délivrer. Alors, pendant son périple, le prince découvre dans une autre contrée une société qui a ruiné la nature et rongé la forêt pour s'emparer des minerais servant à créer des armes et tuer les esprits de la forêt, ceux que cherche le prince notamment, pour se guérir. Donc, dans ce village lointain, les hommes et les femmes sont aussi exploités. Et dans l'histoire, la princesse Mononoke, c'est la gardienne de la forêt peuplée de créatures mythiques et elle est très très remontée contre les humains qui détruisent leur habitat naturel. Donc, dans les films de Miyazaki, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois, ce qu'on retient, c'est que la nature n'est pas une ennemie, mais bien au contraire, une alliée. Et bref, dans ces films, Miyazaki crée des imaginaires hyper puissants qui poussent à vouloir agir pour préserver la biodiversité. Je sais pas si vous aussi, vous regardez des Miyazaki.
Si, ouais. Ouais. De ouf. Moi, j'adore Le Château Ambulant aussi, et je m'étais déjà fait cette réflexion que c'était hyper, hyper peaceful. Et ce rapport à la nature qui est là à présent tout le temps. Quoi.
Moi, mon préféré, c'est Nausicaa. Ouais. Il y a le film, mais je recommande aux gens d'aller lire le livre. Parce qu'en fait, le film, c'est sympa, mais c'est comme une sorte de bande-annonce du livre. Et le livre est vraiment incroyable. Ça parle à la fois d'écologie, mais aussi de guerre et de géopolitique, en fait. Et un peu de colonisation, mais plein de sujets qui sont passionnants.
Moi, très rapidement, mon greenwatching, ce que je voulais vous conseiller de regarder, c'est la dernière vidéo de Léo Urban, un mec qui faisait du parcours. À la base, vraiment, il faisait du parcours de manière très impressionnante à Paris. Il a même grimpé la tour Montparnasse à main nue, évidemment, parce que sinon, c'est trop simple. Et là, il a un peu changé de registre ces dernières années. Il est retourné en Andorre, où il grimpe aux arbres. En fait, il a développé ce qu'il appelle la philosophie primale. Et il essaye vraiment de se rapprocher des mouvements des grands singes et de plus utiliser son corps. Voilà, la gamberge, c'est vraiment genre... Aujourd'hui, on est trop sur nos téléphones, sur nos ordi, on n'utilise plus nos corps. Et lui, il veut se rapprocher de ça. Et voilà, c'est pas impossible... qu'il fasse un petit tour dans l'émission très rapidement, voilà, moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà, la dernière vidéo de Léo Urban, Princesse Mononoke, c'est ce qu'on vous conseille de greenwatcher aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on vous conseille de greenwatcher aujourd'hui. Et si on va parler de tout ça, vous l'avez compris, c'est parce qu'on pense que la culture, elle peut nous aider à bâtir un monde plus durable, plus vivable pour tout le monde. D'ailleurs, Sumboy, ça y est, on en parle enfin, t'as aussi une activité d'artiste, ouais. À côté d'Histoire Crépu, et tu utilises d'ailleurs beaucoup l'IA ouais. pour générer tes œuvres, et il y a pour le coup sur le plan écologique, c'est vraiment un truc qui est hyper critiqué.
Éclaté, ouais.
Voilà, sur le fait que ça utilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup de matière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton art et de pourquoi tu as choisi d'utiliser l'IA pour ça ?
À la fois dans mon travail de vulgarisateur, je produis des contenus sur les réseaux sociaux qui est une activité en soi polluante, et aussi dans mon travail d'artiste, quand j'utilise les IA, j'utilise aussi des technologies qui sont polluantes. Donc c'est une sorte de compromis où je sais que ouais, il y a un problème avec cette manière de travailler. Mais en même temps, moi, ce que j'y trouve d'intéressant, c'est le fait de pouvoir, au niveau des réseaux sociaux, en fait, faire de la politique et propager des idées qui, j'espère, peuvent avoir un impact supérieur à ce que je produis comme déchets. Mais bon, ça, je peux pas le garantir, tu vois.
Par rapport à vos inconvénients.
Voilà,
quoi.
C'est ça. C'est un compromis, concrètement. Hein, tu vois, je vais pas dire que c'est génial de faire ça. Et au niveau artistique, là, je travaille au niveau de l'IA sur comment, en fait, générer les images d'une histoire manquante. Parce que l'histoire coloniale, moi, je la connais, je sais ce qui s'est passé, mais je sais aussi qu'il y avait des systèmes de propagande, notamment en France, il y avait des interdictions de prendre des photos, des vidéos, etc., qui fait qu'on n'a pas documenté tout un tas de révoltes, de rébellions, tout ce qui est, en fait, de l'ordre des résistances à la colonisation, visuellement.
Ouais,
voilà.
Ça, ouais.
Et en fait, l'IA, ça entretient ça. Pourquoi ? Parce que pour générer les images d'IA, on se base sur les images qui existent déjà. Et donc, c'est les images qui existent déjà, c'est des images notamment de l'Afrique, par exemple, en 1840. Ça va être des images créées par des colons parce que c'était les ethnologues coloniaux qui allaient prendre des photos, ou alors carrément la propagande coloniale qui allait mettre en scène ce qu'elle voulait. Du coup, aujourd'hui, avec une IA, si tu veux générer une image un peu passée, tu as forcément la vision coloniale qui apparaît. Et moi, j'essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut, en fait, penser à une sorte de passé, enfin réinventer le passé avec l'IA, qui nous aide aussi à penser le futur et à nous projeter dans autre chose.
Et il n'y a pas qu'Internet justement que tu investis. J'ai vu qu'en 2019, tu avais été invité pour diffuser un film de 4 minutes au musée Pompidou. Ça s'appelait Manono des écrans pour esthétiser la misère. Et dedans, tu évoques les conditions d'extraction des métaux précieux en RDC, qui servent notamment à fabriquer nos téléphones, nos ordi, nos tablettes. Et pourquoi c'est important pour toi d'investir ces lieux, justement, des musées, sortir aussi d'Internet?
En fait, moi, je viens d'abord de l'art contemporain. J'ai fait des études d'art, et donc j'ai fait ça à Angoulême, les Beaux-Arts. Et donc, c'est d'abord l'espace où j'ai évolué. Et ensuite, je suis arrivé sur les réseaux en 2020. Mais donc, moi, l'espace de départ où je me déploie, c'est plutôt les musées, les galeries, les espaces comme ça. Et justement, c'est plutôt l'inverse, en fait. Je me suis dit, c'est un milieu trop fermé, trop petit et qui ne résonne pas avec assez de monde. Et ce que je voulais faire au niveau travail politique, il fallait que j'affronte qu'est-ce que c'est que de produire du contenu à une grande échelle. Et donc Histoire Crépue est plutôt née de ça. Mais juste pour revenir sur l'idée de cette vidéo Manono des écrans pour esthétiser la misère, c'était aussi le fait de dire, justement, c'est exactement ce que je fais, c'est je critique la destruction de l'environnement à travers des smartphones, en fait. Donc, je suis pris dans cette boucle. Et c'est aussi pour ça que je parle d'Histoire Crépue. C'est toujours des histoires complexes. On peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. En fait, je constate que pour avoir l'impact politique que j'aimerais avoir, je suis obligé aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles on vit, d'utiliser les smartphones. Et donc, à la fois, je peux critiquer ça ou le mettre en valeur, de la pub ou de la dénonciation. Tout se passera quand même par le smartphone. Et voilà, c'est cette espèce d'aberration dont j'essaie de parler.
Je pense que c'est une super conclusion avec beaucoup de nuances. Sumboy, on arrive déjà à la fin de l'émission. Demain, on sera avec Ferris Barkat. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sachez que c'est un jeune de 22 piges qui a déjà un CV à faire pâlir Greta Thunberg. Il a cofondé l'assaut Banlieue Climat qui vise à sensibiliser les jeunes des quartiers populaires aux problématiques liées à l'écologie. Aujourd'hui, c'est un peu la fierté des nôtres. Ils tournent partout pour porter ce combat-là et représenter les jeunes qui se sentent pas toujours intégrés dans ces discussions. Louisa, tu sors inspirée de cette rencontre avec Sumboy?
Bah oui, j'ai appris plein de choses.
Merci. Franchement, c'était top. Merci, en tout cas, vous l'aurez compris, demain le monde, c'est l'émission où on refait le monde, où on s'autorise à en refaire un qui ne surexploite ni la planète ni les hommes. Merci Sumboy d'avoir été là ce soir, c'était un plaisir. Demain, on se retrouve même heure, même lieu avec Ferris Barkat. D'ici là, prenez soin de vous, ne baissez jamais les bras. Ciao, ciao, ciao.
Merci.
Salut.